le beurre a vraiment contribué à la création de grandes sauces, par exemple le fameux beurre blanc. Et puis le beurre sera utilisé dans le rôtissage des viandes, sera utilisé dans la cuisson des légumes, sera aussi utilisé dans la pâtisserie.
Une tradition française, la tartine beurrée.
Le beurre doux, chez vous, on ne connaît pas.
Ah non.
Les Français sont toujours les champions du monde de la consommation de beurre. 8 kilos par habitant et par an. Un chiffre qui a pourtant tendance à fondre ces dernières années.
On doit avoir un goût de crème, un goût de noisette. Et en fait, le beurre, il est au top quand on vient juste de le faire.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Baratté, manié, clarifié, tartiné, lié, monté, noir ou noisette, doux ou salé, on vous sert sur un plateau une émission pure beurre avec deux invités qui déclarent leur flamme au beurre. C'est Coutard et Colette, bonjour.
Bonjour.
Coutard et Colette, ça sonne un peu comme une vieille ancienne d'épicerie fine, mais c'est en fait un jeune duo, mieux un couple très porté sur la chose culinaire. Victor Coutard, journaliste et auteur de plusieurs livres sur la cuisine et l'alimentation, et Gala Colette, autrice et directrice artistique, ensemble vous signez un formidable recueil de recettes au beurre. 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour. C'est aux éditions First, avec les photographies de Rebecca Genet et les très belles illustrations signées Jean Aubertin. Elles sont vraiment très belles, ces illustrations.
Ouais, c'est son premier livre en plus.
Très délicate, c'est de l'aquarelle ?
Exactement.
Superbe. Il y a aussi de très belles photos donc de recettes au beurre. Réhabiliter le beurre, qui fut longtemps honni, on se demandera pourquoi. Explorer tout son potentiel culinaire, cru ou en sauce, dans les liaisons, les cuissons. Leçon de cuisine au beurre avec vous et à travers quelques recettes qui vous sont chères, et notamment un très mystérieux poulet à la crème de la mère Coquart qui est en train là de roupiller légèrement dans sa cocotte en fonte. On va le sortir et le déguster tous ensemble dans un instant. Le beurre se tartine et se cuisine, mais comment il se fabrique? On va voir que le beurre est un vrai labeur, sans jeu de mots. Notre reporter Stéphane Combe a mis le cap sur la Bretagne. C'est dans les Côtes d'Armor, au sud de Lannion, que Benoît et Isabelle Alain façonnent dans la ferme du Verne, leur ferme, un exceptionnel beurre, fermier, biologique, au lait cru. Il a toutes les qualités et on va même le goûter ce matin sur le plateau dont on va déguster. Ils sont à mes côtés en direct, comme au tout premier jour de cette émission, puisque ce sont mes compagnons historiques dont on va déguster. Ravi de les retrouver, Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour à tous.
Ils aiment bien être ensemble ces deux-là en plus.
C'est vrai. Ça me fait plaisir de vous voir, Dominique.
Il rougit sous son masque, Dominique.
Elvira. Bicolore.
Je vous parle de beurre qui ne brûle pas.
Ah, j'ai une petite idée.
J'imagine.
On va clarifier cette question.
Voilà, c'est ça.
Dominique ?
Moi, je vous emmène sur la piste du beurre en espérant que, 1, elle ne soit pas trop glissante et que, 2, on ne finisse pas beurré.
Ah oui, tant qu'à faire. Quel rapport entretenez-vous avec le beurre ? Comment vous le cuisinez ? Une astuce ou un truc avec le beurre ? Interagissez dans notre émission en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien en cliquant sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Les recettes au beurre signées Coutard et Colette. Nos infos pratiques, le podcast de nos émissions, le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chaque semaine ou presque, on met en lumière des initiatives solidaires dans le milieu de l'alimentation et de la restauration. Cette semaine, Elvira.
Le marché vert.
Oui.
Bref retour en arrière, mars dernier est prononcée la fermeture des marchés. Les producteurs et productrices se retrouvent sur le carreau, privés de leur principal réseau de distribution. Quatre jeunes femmes, trois journalistes et une photographe, Jill Cousin, Zazie Tavitian, Céline Maguet et Anne-Claire Hérault, mettent en ligne une carte participative appelée le Marché Vert.
Oui, on l'avait évoqué dans cette émission.
Qui recense les épiceries paysannes, les lieux de vente à la ferme, les magasins de producteurs, permettant ainsi aux consommateurs de continuer à s'approvisionner en circuit court et ainsi d'apporter leur soutien aux paysans et aux artisans. 8 mois plus tard, la carte recense 2500 adresses. Chacun peut contribuer et a été vue 3 millions de fois. L'équipe du Marché Vert passe désormais à la vitesse supérieure avec le projet d'une appli gratuite. Or, développer une app, ça demande du temps et des fonds, et pour lesquels elles ont besoin de soutien. Elles ont lancé une campagne de financement participatif sur mimosa.fr, M-I-I-M-O-S-A, avec donc 2 I. J'ai mis le lien sur la page de l'émission. Plateforme dont je vous avais déjà parlé et qui est elle-même dédiée à l'agriculture et l'alimentation vertueuse.
Absolument.
Alors, le marché vert a déjà, à ce jour, récolté 16 000 euros. Il leur reste 10 jours pour atteindre les 30 000, sans lesquels l'appli ne pourra pas voir le jour. L'idée est donc de mettre en avant toutes ces adresses de producteurs, d'épiceries, de commerces de bouche, en circuit court, de pouvoir les géolocaliser facilement, où que l'on soit, et que l'on puisse aussi en savoir plus sur le travail, les méthodes, les engagements des personnes concernées, sans autre filtre à l'entrée que l'exigence de transparence de leur part. Car l'équipe du Marché Vert croit qu'il y a, ou qu'il ne devrait pas y avoir deux mondes qui s'affrontent, et que l'enjeu, si on veut s'en sortir, c'est de conduire tout le monde à la transition alimentaire et donc écologique. Lemarchévert.fr et mimosa.com.
Absolument, pour pour participer vraiment voilà. À la construction que cette appli
devrait être lancée.
D'accès gratuit.
En mars prochain, si tout va bien.
Bien, toutes les informations sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Je voudrais vous réconforter avec une petite note sucrée. C'est bientôt les fêtes. Vous avez un chocolat sous les yeux, vous l'avez goûté ou pas?
Pas encore.
Qu'est-ce que vous en pensez, Elvira?
C'est très bon, un chocolat au lait.
Bonne qualité.
Ouais, très bonne qualité.
Bon,
ouais.
C'est déjà, ils sont déjà bons ces chocolats, c'est déjà pas mal.
Ouais. Pas très sucré peut-être.
Ah, pas très sucré, oui, c'est vrai.
Moi j'ai un chocolat noir très fondant.
Très fondant. Un peu ganache. Très bien.
Il y a une matière en commun, non ?
Il n'y a pas une matière en commun, il y aurait plutôt une démarche en commun. Ces chocolatiers sont très bons, mais ils ont une autre vertu. Ils sont aussi très bons pour les producteurs de cacao qui travaillent en amont de la chaîne. On sait à quel point le cacao est une matière première mondialisée, soumise aux diktats des multinationales du chocolat. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je lisais dans Monde que la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays d'Afrique qui représentent ensemble quand même les deux tiers du marché mondial du cacao, ont lancé ensemble une offensive médiatique sans précédent contre les groupes Mars et Hershey, qu'ils accusent, de très mal rémunérer les planteurs dont on sait que beaucoup vivent dans la misère. Et bien là, vous avez sous les yeux, et plutôt dans votre bouche, une sélection de bonbons chocolat estampillés, chocolatiers engagés. Cela signifie qu'ils ont été fabriqués avec du cacao éthique, achetés auprès de coopératives, de producteurs partenaires, notamment au Cameroun, où de nombreuses filières vertueuses sont en train de se monter. Ces chocolatiers ont signé une charte qu'ils viennent de rendre publique. Et cette charte garantit un cacao de qualité produit dans le respect de l'environnement avec une vraie traçabilité, un tarif d'achat minimum pour rémunérer à prix juste le producteur, et il y a beaucoup d'autres mesures sociales pour aider les cacaoculteurs qui sont souvent broyés par les lois du marché mondial. Et tout ça, ce sont pour l'instant une trentaine d'artisans répartis dans toute la France qui se retrouvent dans ce club des chocolatiers engagés, fondé et présidé par Daniel Mercier, chocolatier à Baugy, on est dans le département du Cher, mais on trouve également dans ce club Tiphaine Corvez, chocolatière à Fontenay-aux-Roses, la Reine Astrid à Paris, Sognon, une maison que j'aime beaucoup, à Bordeaux, qui fait des beaux chocolats de qualité, ou encore le grand créateur Jean-Paul Évin. Si vous êtes consommateur, soyez donc attentif à ce logo chocolatier engagé sur vos ballotins de chocolat de Noël. Toutes les informations pour retrouver ces chocolatiers engagés sur franceinter.fr. À la page on va déguster, là aussi il y a une carte participative. D'ailleurs ce club ne demande qu'à s'agrandir et à accueillir de nouveaux adhérents chocolatiers, le club des chocolatiers engagés. Et puis à nouveau comme chaque dimanche jusqu'aux fêtes de fin d'année, on fait gagner deux exemplaires dont on va déguster notre nouvelle encyclopédie de près de 500 pages entièrement dédiée à la cucina italiana et au patrimoine culinaire italien, un livre coédité par Marabout et France Inter. Dans un instant, Dominique vous pose une question, vous n'y répondez que par mail, on va déguster à radiofrance.com. Vous précisez bien votre nom et votre adresse postale. On ne peut pas valider de bonnes réponses sans l'adresse postale, sinon on ne peut pas vous envoyer le livre. Les deux auditeurs les plus rapides gagnent, on va déguster l'Italie dédicacée. Les deux suivants, une boîte de jeux, on va déguster. Est-ce que vous êtes prêt, Dominique?
Oui, la question est relativement courte. Avec le lait de quel animal est fabriquée la mozzarella di bufala? Attention, nous attendons le nom de cet animal en français.
Voilà, l'animal dont le lait sert à fabriquer la mozzarella di bufala. Je vois des petits sourires là, c'est Coutard et Colette, ils ont la réponse, mais ils se taisent évidemment. On la donnera dans le courant de cette émission, ainsi que le nom des gagnants. Derrière la console, Laurent Thomas et Florent Layani, Margot Page pour la préparation de cette émission. Dans un instant, le beurre des pâturages de Bretagne jusqu'à nos assiettes. Mais c'est juste après la reprise de How Lucky par le duo Kurt Weill. Et John Prine, depuis ce titre enregistré à Nashville, John Prine, une véritable légende de la country folk américaine, est décédé des suites du Covid. C'est donc un morceau d'émotion que nous propose Djoubaka. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter.
One, two, three. Day I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? shines my shoes and I hum from the rearview mirror. Grinds the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get.
I walk down the street I used to wander. Yeah, scratched my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bed. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?
On va déguster.
Allez, allez. Nicotine, go. Hop, on y va. Girafe.
Alors Benoît, là, on est au milieu du pré, du champ, et on est entouré de vaches. Combien vous avez de vaches?
Alors nous, ici, on a 48 vaches. La moitié en race Roman du Léon, l'autre moitié, il y a un peu de vaches jerseyaises, il y a de la normande. Là-bas, j'ai une bretonne pinoire, là, c'est des jerseyaises, et les autres noires, là, c'est des primogènes.
Et toutes les marrons, c'est quoi? C'est des
froments.
Froments du Léon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette race de vaches? Ah bah tiens, il y en a une qui vient nous voir.
Bah, elle, c'est Barat. Donc, sa fille s'appelle Écrémeuse. Voilà, on a des... Qu'est-ce que c'est la froment du Léon? C'est ni plus ni moins que de la biodiversité domestique. Au plus près de nous, il y a aussi une biodiversité qui est en danger, et cette race de vaches en fait partie. Toute cette biodiversité-là a failli disparaître au nom de la standardisation, c'est-à-dire qu'elle fait un lait qui est différent, elle en fait moins que sa copine là qui est noire et blanche, qui est la race dominante. Comme il y a des tomates rondes, des tomates cœur de bœuf, et ben il y a du lait de primogène et il y a du lait de froment du Léon. On est sur un lait qui est déjà très jaune, parce que la vache, on ne sait pas pourquoi encore, mais elle a une capacité à fixer la bêta-carotène qui est dans l'herbe et à la restituer au niveau du lait. Et on a des taux de bêta-carotène qui sont largement supérieurs à un lait normal, avec tous les avantages que ça a en termes de santé, de goût, de couleur. Ici, elles n'ont que de l'herbe, donc l'herbe ici est constituée principalement de raies gras anglais, de trèfle blanc, du pâturin, et voilà, elles poussent naturellement. Le seul amendement qu'on leur donne, c'est du fumier que nous, on produit en mélangeant avec notre paille, qui est mis sous forme de compost une fois tous les deux ans, et voilà, on travaille comme ça depuis des années. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une herbe très diversifiée en flore pour qu'après, ça se retrouve dans notre produit. C'est vraiment quelque chose qui est pour nous très important. Et forcément, on aime bien la triptyque. Nous, on dit la vache, l'alimentation. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas d'ensilage dans la ration ici. C'est que du foin, des fourrages séchés, non fermentés, qui acidifient le lait. L'objectif, c'est de faire vraiment un lait de très bonne qualité. Allez, Fine, avance. Allez, on y va. Là, on entend les génisses meugler parce qu'elles savent qu'on va leur mettre à manger. Elles voient les vaches rentrer, elles savent que le casse-croûte du soir va arriver. Ça y est, tout le monde est à l'abri. On a mis du foin pour le repas du soir. Voilà. On va voir là d'ici peu de temps quand elles vont passer en rations d'hiver, c'est-à-dire qu'elles vont plus sortir pour des questions de météo. Le beurre va être beaucoup plus blanc, plus cassant en texture, moins tartinable. Et voilà, et après on attendra avec impatience le printemps et que le beurre retrouve sa couleur jaune quand il y a beaucoup de bêta-carotène dans l'herbe et que l'herbe est à pleine pousse de printemps. Là on est vraiment, je dirais vers le 15 mai, là on est au... C'est le must, quoi. Là, c'est la plus belle saison. Mais après, ben voilà, le beurre d'hiver n'est pas mauvais non plus. Il est juste différent. Hey, Nicotine, on est parti. Maraude.
Notre reporter Stéphane Combe est allé rendre visite à Noiraude, Nicotine, Girafe et accessoirement à Benoît Alain, producteur de beurre. Avec sa femme Isabelle, on est à la ferme du Verne, dans les Côtes d'Armor, Bretagne Nord, une commune qui s'appelle Ploubert. Alors vous avez compris, notre couple fait un beurre fermier, artisanal, biologique. Je crois que vous le connaissez bien d'ailleurs, Victor Egala.
Oui, on a utilisé son beurre dans notre livre, notamment pour notre purée, parce qu'il en fallait beaucoup.
Purée gratinée au beurre.
Waouh, purée gratinée au beurre.
Ouais.
Comment vous faites, Gala?
On fait une purée et puis on rajoute beaucoup de beurre,
ouais.
Beaucoup de crème.
Mais autant, combien de beurre?
Pas autant qu'un certain Joël Robuchon qui faisait combien moitié beurre, moitié pomme de terre.
C'est assez robuchonesque.
D'accord.
Mais et ensuite on la passe au grill quelques minutes pour qu'elle soit bien gratinée.
Gratinée.
Voilà. Et puis on rajoute une noix de beurre dessus parce que
bien c'est très trop sec.
Et c'est le beurre qui gratine et qui va dorer un peu cette purée. Très
voilà,
bonne idée.
Exactement.
Bon, bah
et c'est ce beurre qu'on a utilisé pour cette recette.
Avec la standardisation du beurre et sa production industrielle dont on va parler tout au long de cette émission, on a peut-être oublié ce reportage à la vertu de nous le rappeler, que le beurre peut être un produit vivant, qui change même de couleur, de texture, de goût selon les saisons.
Oui, le beurre c'est un produit de saison, il change selon le lait, et le lait change selon ce que mangent les vaches.
Mm-hmm.
C'est pour ça que le beurre des froments du Léon est merveilleux, parce que c'est un beurre, ce sont des vaches qui mangent des pâturages bien gras, avec de jolies fleurs, avec de jolies herbes, et du coup ça lui donne cette couleur et ce goût tout à fait particulier.
C'est ça, alors la froment du Léon, on entend de plus en plus parler, cette race ancienne qui fait un retour notable, notamment dans les champs bretons, c'est vraiment une race ancienne de Bretonne, alors c'est vraiment pas une championne du rendement, hein, mais c'est justement sa qualité, c'est qu'elle fait plutôt moins de lait que ses copines, qui sont plus pisseuses qu'elle, entre guillemets, mais en revanche... son lait est exceptionnel, fixe les couleurs, il est assez gras et à l'arrivée on obtient un beurre d'une grande qualité.
Oui, on peut par exemple une Primolstein qui est la vache, l'usine à lait de référence qui j'ai rien contre la Primolstein, mais pour vous donner une idée, elle fait 10 000 litres de lait par an. Alors que une Froment du Léon, une Bretonne Pinoir, ces races bretonnes à faible effectif comme on les appelle, font entre 2 et 3 000 litres de lait par an. Donc forcément pour les géants de l'industrie agroalimentaire, c'est moins rentable et donc moins intéressant.
Mais heureusement, on a encore un peu partout sur le terroir breton, même si c'est assez rare, des beurres de grande qualité. On va le goûter dans un instant parce qu'on a la chance justement d'avoir ce beurre signé Benoît et Isabelle Alain, il est absolument exceptionnel. On le trouve dans quelques épiceries parisiennes, on le trouve aussi localement, c'est l'idée, ils vendent en circuit court leur beurre, notamment dans les magasins d'alimentation bio. Vous êtes assez jeunes, Victor et Gala, Coutard et Colette, c'est votre nom de scène en quelque sorte, vous êtes des auteurs culinaires, vous êtes lancés dans cette réhabilitation du beurre à travers un livre qui se fait remarquer aux éditions First, Au beurre, 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour. Est-ce à dire que il était un peu oublié ce beurre?
Il n'a jamais vraiment été oublié, il fait partie de notre quotidien, qui ne mange pas de croissant, qui ne se fait pas une tartine, qui ne fait pas de crêpe. Le beurre en fait est partout, mais il a joui ces dernières années d'une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation qui lui a été accolée à tort. Et pourtant, on a tous des souvenirs de plats au beurre, on a tous eu une grand-mère, on a tous eu des envies de gourmande. Donc notre idée, c'était de déculpabiliser l'accès au beurre et de le rendre plus sexy.
Plus sexy, mais il est vrai que ce beurre, il est un peu pris entre deux feux, j'ai l'impression, et c'est ce que vous expliquez très bien d'ailleurs dans les, parce qu'il n'y a pas que des recettes dans votre livre, il y a aussi beaucoup d'éléments, de langage, patrimoniaux, historiques, même sur la nutrition et le beurre. D'un côté, la diabolisation, qui est liée à cette espèce de, d'hygiénisme ambiant, la chasse aux calories, l'orthodoxie, etc. Et de l'autre, au contraire, une sacralisation. Et le beurre, dans son histoire, finalement, a toujours oscillé entre ces deux mouvements, soit totalement diabolisé, il a même été, dans les années 70, carrément fustigé, condamné, accusé de tous les maux, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, etc. Mmh. Le beurre, en même temps, fait partie, et à plus forte raison en France, de notre patrimoine gastronomique. Le beurre, mal aimé, adoré.
C'est vrai que c'est un aliment complexe et c'est un aliment qui dit beaucoup de choses sur notre rapport à la gastronomie et à la nutrition aujourd'hui. Finalement, c'est un aliment de base, c'est l'aliment référent de ce qu'on appelle la cuisine française. Donc c'est un aliment qu'on retrouve partout et qui pourtant a joui d'une mauvaise réputation concernant ses apports nutritifs et potentiellement les dangers qu'il pouvait procurer pour la santé. Quand bien même aujourd'hui on sait, parce qu'il y a eu des études, que le beurre n'est pas mauvais ou pas plus mauvais qu'une autre graisse pour la santé. On sait aussi quelque chose qui est pire, c'est que dans les années 60, les lobbies du sucre ont commandité des fausses études scientifiques pour pouvoir discréditer le beurre et faire de lui l'ennemi de vos artères, l'ennemi du diabète, le pourvoyeur du diabète, etc. C'est faux.
Et cette supercherie, on l'a effectivement, on l'a découverte. Et ensuite, le beurre, par des études scientifiques, a été précisément réhabilité. Et globalement, tous les maux dont on l'accusait sont plus tellement valables aujourd'hui.
Bien sûr. Alors après, c'est sûr qu'il ne faut pas se manger une plaquette entière chaque jour. Mais les scientifiques s'accordent pour dire que entre 14 grammes par jour, il n'y a rien de mauvais pour la santé. C'est même plutôt bon parce que le beurre est aussi, on a besoin de gras, on a besoin de graisse pour vivre. Et donc le beurre est complètement réhabilité à tel point qu'il a fait la couverture du Time en 2014 qui mettait Eat Butter. Alors si les Américains le disent,
ben on peut
après avoir dit Eat Olive Oil pendant 25 ans.
Eat Olive Oil, absolument. Alors certes le beurre est très calorique, 72 calories par portion de 10 grammes, mais c'est pas davantage, précisez-vous, que les huiles végétales. Et par ailleurs le beurre constitue un apport très intéressant en calcium, en vitamine D, indispensable à la préservation du capital osseux.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée qu'on a l'impression que c'est le beurre cru qui est sain, que le beurre, dès qu'il est cuit, devient le diable, quoi?
C'est en partie vrai, parce que le beurre a un point de fumée, donc c'est le moment où le beurre se détériore, beaucoup plus bas que l'huile d'olive. En fait, le point de fumée du beurre est à 130 degrés. Alors, en comparaison, l'huile d'olive, c'est 220 degrés. Du coup, ça pose un problème, parce que si vous faites noircir le beurre comme on avait l'habitude de le faire
le fameux beurre noir,
ça c'est dégueulasse pour la santé.
C'est ça. Voilà. Et bien ça, on va d'ailleurs en parler avec vous tout à l'heure, Elvira, sur le point de fumée du beurre, du l'œil au beurre noir. On en arrive tout naturellement à la mère Coquart.
C'est mémé Coquart, attention.
Ah, pardon, mémé Coquart, un Coquart, on l'a peut-être un peu oublié, mais dans le langage populaire et français, c'est un œil au beurre noir. Avoir vraiment un œil avec une grosse ecchymose. Il est là, ce poulet de Mémé Coquart. Il est délicieux.
Il est avec
bien lui. Crémé, bien beurré. Quel est son secret?
Son secret, c'est d'abord son histoire. C'est notre amie Clémentine qui a retrouvé pendant le premier confinement le carnet de recettes de son arrière-grand-mère, oui. Virginie, connue dans toute la Bresse, et notamment dans le village de Sertine, où elle avait son auberge, pour son fameux poulet à la crème. Donc quand Clémentine est arrivée avec sa recette, écrite sur un petit bout de papier d'une jolie écriture italique... On s'est empressé de la mettre dans le livre. Incroyable. Parce que on a du beurre pour faire dorer la carcasse, on a du beurre pour faire dorer les morceaux. Et surtout, c'est très bon. C'est même délicieux, à mon avis, en tout cas.
C'est tellement bon, ouais.
Il est délicieux avec cette sauce crémée, incroyable.
Oui, et donc je sais que toute la famille de Clémentine nous écoute ce matin. Donc je voulais les remercier.
Ils peuvent être fiers de leur recette.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous en décrire la recette?
Oui, en fait, il faut d'abord faire un bouillon. Donc, Mémé Coquart, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait un bouillon de pâtes.
De pâtes de poulet.
De pâtes de poulet, oui, bien sûr. Évidemment, tous les bouchers ne gardent plus les pâtes maintenant. Donc, vous pouvez utiliser les coups, les ailes, évidemment la carcasse.
Très bien, on ne jette rien dans la carcasse du poulet.
On jette surtout rien, on fait un bon bouillon. Donc, on fait dorer la carcasse, on fait dorer le cou et les pâtes si vous les avez.
Au beurre,
évidemment. On rajoute 1,5 litre d'eau. On fait un bon bouillon. Donc on attend un peu, on racle un peu avec une cuillère en bois pour récupérer les sucs, etc. Et puis après, dans une cocotte en fonte, c'est plus sympa dans une cocotte en fonte, je ne sais pas si c'est obligatoire.
Comme celle qui trône sur le plateau dont on va déguster.
On remet un peu de beurre. Il faut quand même
sinon c'est pas drôle.
Coller au sujet. Et on fait dorer les morceaux de beurre que vous allez demander à votre boucher d'avoir prédécoupé avant. Vous les faites dorer. Quand ils sont dorés, vous rajoutez de la farine.
Il faut des gros morceaux. C'est combien de morceaux?
Quand vous demandez à votre boucher, il le fait. En gros, il coupe les suprêmes en deux. Il y a les pilons, il y a les pâtes.
Et ça, c'est bon.
Et vous singez donc avec de la farine. Vous faites dorer, puis vous versez le bouillon. Vous versez un verre de vin blanc.
Pourquoi vous me regardez? Je vous ai laissé tranquille depuis le début de l'émission. Laissez-moi manger mon assiette tranquille. Merci.
Et donc, bouillon, le verre de vin blanc. Et puis, vous laissez mijoter pendant une heure. Ou plus. Ça dépend de la taille de votre poulet. C'est à vous de voir. Et en fin de cuisson, vous rajoutez 50 centilitres de crème fraîche et un jaune d'œuf.
Et voilà, pour la liaison.
Et selon vos goûts, vous pouvez réserver, garder un peu de bouillon pour pouvoir vous faire, je sais pas, un risotto aux
pâtes. Un parsemé de beurre après, non?
Vous pouvez le parsemé de beurre.
Et on obtient cette petite merveille, c'est d'une gourmandise absolue avec les froids qui courent. Je peux vous assurer que cette sauce bien crémée, enveloppante, nappante, avec cette petite acidité aussi, il y a le côté aigrelet des produits laitiers, mais également le vin blanc.
C'est un plat du dimanche parfait, quoi. Avec dimanche de rêve.
Et des chairs presque compotées.
Riche, certes, mais pas lourde.
C'est un vrai régal. Non, vraiment bravo, merci. Le poulet de Mémé Coquard, la recette à retrouver sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Arrêtez à la maison, on a largement nos gagnants à la question dont Dominique nous donnera la solution dans un instant. Donc il faut arrêter de nous envoyer des mails, on est un peu assaillis, mais merci beaucoup pour vos nombreuses réponses. Retournons en Bretagne à la ferme du Verne. On va voir que faire du beurre, eh ben c'est du boulot. Quand vous pensez qu'il faut par exemple entre 18 et 20 litres de lait pour faire un kilo de beurre. C'est ce que nous explique Isabelle Alain, qui travaille avec son mari Benoît au moment de l'écrémage.
Là, je vais commencer à ouvrir, mais c'est fermé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écrémeuse. Donc là, le lait chaud du matin est envoyé dans la machine. Donc il y a deux goulottes en sortie de la machine. Une petite goulotte sur laquelle sort la crème et une goulotte un peu plus grosse dans laquelle sort le lait écrémé. Donc le lait écrémé, nous, je ne le garde pas dans mon labo, il me sert à nourrir les veaux. Et moi, ce que je conserve, c'est cette crème-là qui me servira à faire le beurre la semaine prochaine. Si vous regardez, on a une grosse différence de couleur entre ce qui sort côté crème et ce qui sort côté lait écrémé. Donc le lait écrémé est complètement blanc et la crème, elle est jaune.
Là, la traite, c'est à peu près combien de litres?
Là, ce matin, il va avoir à peu près 200 litres de lait.
Il vous faut à peu près quelle quantité de lait pour faire du beurre?
Eh bien, il nous faut, donc sur la première étape, déjà l'écrémage, il nous faut à peu près 10 litres de lait pour faire 1 litre de crème. Au total, il faut à peu près, en fonction des races de vaches et du coup de la quantité de crème qu'il y a dans le lait, entre 18 et 22 litres de lait pour faire 1 kg de beurre.
Grande colère ou petit chagrin, gros rhume ou besoin de câlin, mauvaise note ou longue absence, fringale ou besoin de vacances, chacun soigne ça comme il peut, moi je ne fais ni une ni deux. Pour les matins boudeurs, la tartine de beurre. Pour les jours de noirceur, la tartine de beurre. Pour les jours où tout résiste, où j'ai l'œil et le cheveu triste, je la prépare et je la trempe, adieu les crampes. Pour réchauffer le cœur, la tartine de beurre. Surprise au petit déjeuner, soleil à l'heure du goûter, anniversaire ou récompense, belle visite ou jour de chance, chacun fête ça comme il veut, moi je ne fais ni une ni deux. Pour les journées en fleurs, la tartine de beurre. Pour les gros gros bonheurs, la tartine de beurre. Pour les jours où tout s'arrange, où je me sens belle comme un ange, je la prépare et je la trempe, tiens bon la rampe. Pour faire chanter le cœur, la tartine de beurre. Je ne sais rien de meilleur que la tartine de beurre.
La tartine de beurre par, vous l'aurez peut-être reconnu,
Anne Sylvestre.
Valérie Giscard d'Estaing.
Tous en cœur. Anne Sylvestre, qui nous a quittés cette semaine, et la meilleure façon de saluer sa mémoire, c'était sans doute d'écouter et de déguster sa tartine de beurre. Mais on peut aussi en déguster une autre de tartine de beurre. On va pas faire trop long parce que ce n'est pas tout à fait la saison, mais elle m'a intrigué, cette tartine, à la page 28 de votre livre, Au beurre, Gala, Colette. Tartine aux fraises de grand-maman, racontez-nous.
Oui. Grand-maman, c'est mon arrière-grand-mère qui préparait, donc qui est belge, qui était liégeoise, qui préparait cette tartine de fraises à ses enfants et à ses petits-enfants. Alors c'est peut-être une des recettes les plus simples du livre.
Incroyable.
C'est une recette qui est sentimentale pour moi, bien sûr, mais que j'aime beaucoup. Donc c'est simplement une tartine de pain de campagne généreusement beurrée sur laquelle on écrase des fraises bien juteuses, bien sucrées.
Incroyable.
Et puis il n'a plus qu'à croquer dedans.
Mais non, mais c'est le contraste. Alors on attendra le printemps évidemment pour tenter l'expérience, mais il est vrai que l'association fruits juteux, pulpeux avec la matière grasse, beurre, etc. C'est pas forcément commun.
C'est une sorte de confiture plus fraîche, quoi.
C'est ça, une confiture fraîche.
Pas cuite.
Exactement, voilà, une confiture fraîche avec du beurre salé ou du beurre
comme on veut.
Comme on veut.
Je le fais au beurre doux.
Sachant qu'à là, on n'a pas encore abordé ce fameux débat. Cette bataille rangée entre beurre demi-sel et beurre doux. Dominique, la réponse à notre question est le nom de nos gagnants. Alors, on rappelle la question qui permettait de gagner deux exemplaires dont va déguster l'Italie dédicacée.
Avec le lait de quel animal est fabriquée la mozzarella di bufala?
Et on a beaucoup, beaucoup de réponses qui se sont bousculées sur notre mail.
Oui, alors à tel point que Margot Page, qui est derrière le hublot, a recensé plus de 400 réponses. Donc on a dû, pour départager, ne retenir que celles qui étaient orthographiées avec les fameux deux L et deux N qui constituent le mot de bufflone.
Oui, c'était important de mettre deux F et deux N. On a été obligés pour trier un peu. Donc effectivement, lait de bufflone, vous le saviez tous, pour oui. fabriquer de la mozzarella di bufala qui
en
bénéficie
moi, j'ai un
d'un
DOP. Sur les F, les L et les N.
Non, je vais vérifier.
C'est deux F, deux N?
Oui, ouais, ah, en français, oui.
On peut en mettre trois si ça vous fait plaisir.
Non, je disais, moi, je ne sais pas l'écrire, par exemple.
Qui a gagné?
Alors, pour le livre, Émilie Amey, qui habite la Serpillière en Isère, ça fait beaucoup de L et beaucoup de I, et bien. Et Marie-Agnès Moineau, à Lompnieux, j'espère que je le dis bien, dans l'Ain, département 01, vous le savez. Pour ce qui est du jeu, Christine Petit à Chatou, c'est dans le 78. Et puis Sylvie Banuls.
Que des femmes.
Que yes. des femmes, dis donc, oui. Ouais. À Eus, dans les Pyrénées-Orientales.
Elles sont plus rapides, c'est bien connu.
Et on écrit mieux, surtout.
Et vous écrivez mieux, et effectivement. On vous envoie tout ça dédicacé. Un grand merci. Bah, Dominique a la parole, il la garde, pour, dans l'espoir de ne pas trop être beurré.
On va déguster. Sur France Inter.
Dominique. Mais j'ai très bien compris votre allusion.
Non, mais bon.
Enfin bref.
Je vois des verres à vin qui...
Qui ne circulent pas du tout, d'ailleurs.
Qui ne circulent pas du tout, oui. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui.
Je vais vous laisser le soin d'ouvrir la bouteille, si vous voulez. Tiens, François-Régis, au lieu de faire le malin, mon petit bonhomme.
On va confier ça à Victor Coutard. J'ai l'impression qu'il sait faire.
Alors, le beurre. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais sur la planète vin, les références au beurre sont à ce point nombreuses qu'on peut dresser un panorama. Bon. Bravo. Ah voilà, ça, c'est un appôt à auditeur. Formidable.
Avec un geste ferme, sans hésitation.
On sent l'expérience. Bravo.
Je
me proposais de dresser un panorama beurré en quatre temps qui emprunte au végétal, à la vinification, au langage et à l'histoire. Alors, juste avant de dresser ce petit inventaire à l'après-verre, il faut d'abord évacuer les faux amis, au premier rang desquels le B de beurre nous oriente vers le B de Bourgogne.
Ouais.
Et c'est là qu'on trouve un cépage qui s'appelle le Pinot Beureau. Alors évidemment, beurre, on est tenté de relier le sujet qui nous occupe aujourd'hui, sauf que beureau, c'est une allusion à la bure, tiens, encore un B, bure qui est la robe des moines. Voilà.
Donc aucun rapport avec le beurre?
Absolument pas. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que robe, en verlan, ça donne beurre. Et voilà.
Ouf.
Donc, je n'ai pas fait exprès.
Ah, il l'a cogité, sa chronique.
Cette robe, justement, elle se trouve être grise, comme la peau du raisin, ce pinot beureau, qui n'est rien d'autre que le pinot gris que vous connaissez en Alsace. Voilà. Donc maintenant qu'on a évacué cette fausse piste, de beurre, on va quand même garder ce B de beurre et le B de Bourgogne, puisque la vraie des premières quatre pistes que je vais vous proposer, qui vont nous mener au beurre, se trouvent au cœur du patrimoine végétal bourguignon, avec un autre cépage qui, lui, est beaucoup plus connu, et qui est surtout connu pour ses arômes de beurre. Ce cépage, c'est le chardonnay, qui est un raisin blanc, qui est un peu l'emblème de la Bourgogne, et qui donc développe ses notes beurrées,
et oui.
spécialement dans une partie du vignoble qui s'appelle la Côte de Beaune. Côte de Beaune avec la ville de Beaune, pour épicentre, vous connaissez peut-être ces célèbres hospices, ces
oui,
ventes aux enchères,
sûr.
etc.
Avec Jean Bertin et à Beaune, d'ailleurs, voilà. qui a fait les dessins.
Eh bien, nous y sommes, en plein cœur. B comme beurre, B comme Bourgogne, B comme Beaune. Alors, j'aurais pu choisir pour cette Côte de Beaune, par exemple, un Beaune ou un Blagny, mais convenez que ça aurait été un petit peu trop facile. Donc, j'ai pris leur voisin, qui est le Saint-Romain. Le vin de Saint-Romain, d'ailleurs, merci, puisque maintenant les verres sont pleins. Il s'agit d'un vin blanc.
On chine.
Merci Victor Coutard. Ah, carrément, bah, allez-y.
Voilà, ting, bravo. Saint-Romain blanc, donc, blanc, B comme blanc, de chez Henri et Gilles Buisson. Encore un B. Je sais pas qu'est-ce qui m'affiche ce truc-là. En tout cas, bon. Un 2012, c'est la cuvée sous la velle, 100% chardonnay. Vous pouvez trouver des arômes de beurre. Alors, sinon, pas de panique. Des arômes, ce sont des molécules. C'est un exercice très pratique qui fait appel à la culture, à la sensibilité de chacun. Pour autant, tous ces arômes sont par centaines dans le vin. Il y a une grande diversité. Il y a des familles, le floral, le fruité, l'épicé et le lactique. Et au rang des arômes lactiques, vous allez trouver donc le beurre frais, le lait, le caramel, etc. La deuxième piste, c'est la vinification. Et c'est là que s'invite de nouveau le beurre dans l'univers du vin, puisque lors de la vinification, la fermentation malolactique, pendant laquelle l'acide malique, qui est un acide plutôt dur, un acide assez pointu, va se transformer en acide malique, qui lui est synonyme de rondeur. Donc on va la chercher pour des vins qui seraient peut-être un petit peu vifs. Après les arômes et la vinification, c'est le langage du vin qui lui aussi alimente les liens entre vin et beurre. Alors même si on l'a déjà dit, j'aimerais saisir l'occasion de redire ici l'importance des gestes barrières pour éviter de finir beurré. On évitera donc de se peinturlurer le tarbouif, de sarsouiller la terrine, de se graisser le toboggan, de se goudronner le vestibule et donc de se beurrer la tartine. Et en guise de conclusion, puisque je vous avais promis...
Ah Dominique.
Mais je ne vous parle que scientifiquement, un petit peu d'attention. Je vous avais promis une trace dans l'histoire et ce témoignage assez poignant qui nous vient du XIe siècle. Alors évidemment, malheureusement, le nom de l'auteur ne nous est pas parvenu jusqu'à nous, mais ce texte paraît, à la lecture des faits actuels, d'une folle modernité. Je suis crémier, je suis confiné. Je fais de la crème en HLM. Mais quelle dure tâche de faire mon beurre avec ma vache coincée dans l'ascenseur.
Avec la bâche, Paris, ça c'est la maladie du B. Hein.
La maladie du B.
Écoutez, on se régale en tous les cas. Un petit commentaire sur ce Saint-Romain, Victor Coutard.
Eh ben, je le trouve délicieux et je trouve qu'il va parfaitement bien avec le poulet de la Mémé Coquart.
Incroyable.
C'est encore un hasard.
Quel vin blanc d'ailleurs vous avez mis dans le poulet de la Mémé Coquart?
Alors moi je suis tourangeau, donc j'ai pris un vin de chez moi que j'ai trouvé près d'Azel Rideau.
On a quelques questions d'auditeurs, Elvira. Ça se bouscule pas mal sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter.
J'ai notamment une question un peu technique.
Oui, oula, alors va-t-on y répondre.
Danne-Marie qui nous écrit qu'elle met une goutte d'huile dans le beurre pour éviter qu'il noircisse et demande si c'est une hérésie. Alors je ne sais pas si c'est une pratique, juste une habitude qu'on a, ou est-ce qu'il y a une vraie explication technique. En tout cas, moi je sais que je le fais,
ouais,
et que mon beurre ne noircit pas.
Et les anciens le font, de génération en génération, on a tendance à mélanger avec une huile végétale ce beurre, dans l'espoir effectivement qu'il noircisse moins et qu'il soit meilleur pour la santé.
Alors malheureusement, je ne vais pas être juge de paix parce que j'ai tout entendu. J'ai entendu des cuisiniers me dire que c'était n'importe quoi, d'autres me souvenir que c'était la... Ce que je peux dire, c'est que le point de fumée du beurre, comme on l'a dit tout à l'heure, est de 230 degrés. Mm-hmm. Et que, en fait, c'est peut-être pas le beurre cru qu'il faut choisir quand on essaye de faire griller plus fort qu'à cette température-là.
D'accord. Pas d'autres questions pour l'instant. Enfin, on en a, mais on est en train de les trier. Je vous propose, du coup, de retrouver Benoît et Isabelle Alain depuis la crème fraîche. Comment on obtient du beurre? Victor et Gala, vous le savez forcément. C'est cette fameuse opération dite du barattage. Allez, on bat le beurre avec Benoît et Isabelle Alain pour enfanter des lingots d'or. Vous allez voir, bien éloigné des beurres industriels.
Donc là, ce que je viens de faire, c'est de sortir toute la crème fraîche de la semaine dernière. Et cette crème-là, je vais la mettre dans ma baratte. L'objectif, c'est de taper la crème pour qu'on agglomère les grains de beurre. Elle est bien jaune, quoi.
Elle est belle, hein.
Ouais. Là, la crème, elle a plusieurs jours. Elle est déjà bien épaisse.
La baratte, hein, cette espèce de tonneau avec cette lame, est déjà quasiment remplie de la crème.
Là, nous, on travaille au lait cru. Donc, le beurre qui sera issu de ma ferme, eh ben, il n'aura pas tout à fait le même goût qu'une ferme qui en ferait à côté, quoi. Parce qu'on n'a pas les mêmes vaches, on n'a pas les mêmes prairies, on n'a pas le même microbiote autour de l'élevage. Mais les produits au lait cru, ils ont un autre avantage en plus du goût, c'est des produits qui sont vivants. Sur le beurre, c'est pareil, il y a certaines vitamines comme la vitamine D, etc., qui sont aussi plus présents sur un produit au lait cru. Nous, on ne mange pas forcément le beurre comme pour agrémenter quelque chose. Le beurre, si on se fait une tartine de pain beurre, ça se suffit parce que le beurre, en fait, il a tellement d'arômes, de goût. Oui, finalement, il n'y a pas besoin d'autre chose avec, quoi.
Ah, c'est étonnant, hein, parce que...
La première étape est faite, ouais.
Toute cette crème s'est transformée, en fait, en grumeaux.
En grosse semoule, voilà. On a vu la crème qui, au fur et à mesure, changeait de texture, passait en chantilly, etc.
Alors, sur la partie supérieure, en effet, c'est des grains, des gros grains jaunes.
C'est les globules gras, en fait, qui se sont agglomérés et qui font le beurre.
Et dans la partie inférieure du tonneau, hein, de la baratte...
Là, c'est liquide, et c'est ce qu'on appelle le babeurre.
Donc là, vous refaites tourner...
je refais tourner la baratte.
La lame qui est dans la baratte.
Mais là, du coup, cette fois-ci, elle tourne tout doucement et dans le sens inverse. Là, on est à la phase, en fait, malaxage. Maintenant qu'on a bien enlevé tout le babeurre, qu'on a bien lavé le beurre, l'objectif, c'est d'agglomérer ces grains de beurre et d'en faire une matière homogène. Là, je vais sortir le beurre. C'est-à-dire que le beurre, au fur et à mesure où il est malaxé, où j'ai enlevé l'eau, je vais le sortir de la baratte parce que j'ai besoin de le peser.
Alors là, il est déjà consommable, le beurre?
Là, il est consommable. Là, c'est du beurre doux.
Donc vous avez une vingtaine de kilos de beurre.
Là, ouais, j'ai calculé qu'aujourd'hui, il me faut 680 grammes de sel. Donc alors, du sel, nous, on utilise du sel de Guérande. Et donc là, on remet la machine en fonctionnement, à tourner, en mode malaxage. On incorpore le sel au fur et à mesure à l'ensemble de mes 25 kilos de beurre que j'ai fabriqué aujourd'hui. Traditionnellement, le beurre était systématiquement salé parce que le sel est un conservateur. On a un beurre qui est relativement cher par rapport au beurre industriel qu'on trouve dans le supermarché parce que ça nécessite beaucoup de lait et beaucoup de main-d'œuvre en fait.
Quel est votre regard, Benoît et Isabelle, sur le beurre industriel, même de grande qualité
On a le même mot, mais on est sur des produits qui sont même plus comparables à la fin, quoi. Le beurre du supermarché, nous, c'était ce qu'on consommait, nous aussi, avant de fabriquer notre beurre. Parce que de toute façon, le beurre fermier au lait cru, c'est quasiment introuvable, quoi. Mais une fois qu'on s'est habitué à manger ce beurre-là, c'est vrai qu'on arrive difficilement à manger l'autre beurre. On a l'impression qu'il n'a pas de goût, quoi, qu'il est... Enfin, voilà. Ça ou rien, des fois, sur le bout de pain, on a l'impression que... Voilà.
Comme beaucoup de produits, le beurre a été hyper industrialisé et a perdu complètement de ses qualités et de son plaisir. Il devrait y avoir autant de différences de beurre qu'il y a d'exploitations agricoles, parce qu'on a tous des races, des alimentations, un terroir différent. C'est inindustrialisable, en fait. Il faut vraiment que ce soit nous qui le faisions. Et la main de l'homme, quand on est en train de remalaxer du beurre, c'est ce qui fait qu'après, les gens sont addicts de notre beurre. De toute façon, c'est comme une drogue. Donc, on n'en a pas beaucoup. Et je pense que, voilà, savoir se raisonner. Mais par contre, au niveau qualitatif, c'est clair que là, on est quand même sur un produit de très grosse qualité, quoi.
Et bien, justement, le beurre de la ferme Duverne a atterri sur le plateau dont on va déguster. Il paraît que c'est une drogue qui rend complètement addict. Et bien, on va le vérifier. Qu'en pensez-vous, Dominique? Je crois que, Dominique, ça fait peut-être 18 ans que vous n'avez pas goûté un beurre breton.
Oui, c'est exactement ça. C'était pour fêter la dernière victoire du Stade Rennais au football.
D'accord.
Non, on les aime, je les embrasse, les Bretons.
Précisons aux rares auditeurs qui ne le savent pas que vous nous venez du Cotentin, où vous mangez également du beurre salé ou demi-sel.
Oui.
Alors, cette question du sel dans le beurre breton ou normand, effectivement, au départ, le sel est un conservateur. Il y a peut-être aussi une autre raison. Pourquoi mange-t-on exclusivement du beurre salé en Bretagne, Victor Coutard?
Parce que c'est meilleur.
On est d'accord.
Voilà, je vais essayer d'être précis parce que je sais que tout le monde est très sensible avec cette question. Mmh. En fait, il y a une raison assez historique. Mmh. Au XIVe siècle, Philippe VI impose un impôt sur le sel qui s'appelle la gabelle. Et les Bretons vont être exemptés de cet impôt et donc vont pouvoir continuer à mettre du sel dans leur beurre, ce qui va leur donner un avantage économique parce que ça va leur permettre d'avoir un beurre qui se conserve mieux et donc de le vendre à Paris et dans la capitale, sachant que quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, le beurre allait devenir le must de la grande cuisine française.
C'est ça.
Avec les sauces, avec les roux, etc., etc.
Et là, on est en train de goûter ce beurre. Alors, a priori, c'est la version hiver, puisqu'on sait que c'est un beurre évolutif au fil de l'année. Il est a priori moins jaune que celui qu'on trouve au printemps ou en été, mais il est déjà...
Il est assez filant, et contrairement à beaucoup de beurre de micelle, le beurre est ici intégré.
Oui.
Alors qu'on aime bien peut-être croquer un peu la fleur de sel, oui, des sensations comme ça, du tout. Là, il est filant, et l'ensemble est extrêmement homogène, le gras et le sel.
Et il est très aromatique.
Très aromatique, très doux, très fleuri en quelque sorte.
Oui, mais même de temps en temps, on peut reprocher. Il y a d'ailleurs beaucoup d'auditeurs qui réagissent à ce sujet, notamment sur la question du goût.
François Savary nous écrit notamment « J'ai acheté très cher chez un meilleur ouvrier de France un beurre fermier. Nous l'avons trouvé tellement rance que nous n'avons pas pu le consommer. Est-ce normal? Est-ce dû au côté très lacté ?» C'est vrai qu'on est surpris par la saveur puissante.
On n'a pas l'habitude, quand on achète un beurre de ferme, il est vrai que parfois il peut avoir une certaine puissance qui frôle parfois les goûts d'étable ou des gourances.
Parler d'arômes, ce sont des notes animales.
Ben, y a deux choses en fait. La première, c'est qu'on a été habitué à des beurres du supermarché, à des beurres quasiment blancs, faits avec du lait pasteurisé, avec des qui n'ont pas d'arôme, qui n'ont pas de goût en fait. Ce sont des beurres quasiment neutres. Du coup, quand on arrive sur ces beurres fermiers, des beurres qui ont un goût puissant et qui ont le goût du terroir, comme le disait très justement l'éleveur dans le reportage, on peut être surpris. Mais ça, c'est excitant aussi, parce que, comme le disait cet éleveur, il y a autant de beurre que d'éleveurs. Du coup, vous pouvez faire différents essais et trouver le beurre de vos rêves auprès d'un éleveur avec qui vous vous entendez bien et dont la race de vache vous revient.
Il faut tout goûter.
Il faut tout goûter. L'autre chose, c'est que c'est du beurre au lait cru, c'est une matière vivante. Et par conséquent, c'est un beurre qui doit être chouchouté plus... peut-être qu'un beurre de supermarché, parce qu'il va se conserver moins bien. Et donc, il faut le mettre dans un beurrier, il faut le mettre au frigo. Et du coup, il faut y faire attention, plus qu'à un beurre qui ne mérite pas cette attention, d'ailleurs.
Rappelons que le lait cru est un lait vivant qui n'a subi aucun traitement thermique, contrairement au lait pasteurisé qui, lui, a été un peu matraqué, entre guillemets, en subissant un choc thermique qui lui enlève... un grand nombre de bactéries, il faut bien l'avouer. Donc forcément, un beurre au lait cru est plus évolutif, plus vivant et plus susceptible de changer de goût au fil des jours et des semaines.
Donc c'est évidemment pas un produit qu'on trouve au supermarché. À ce propos, Dominique Fuset nous demande comment analyser les étiquettes de beurre. Pourquoi voit-on fermement lactique sur l'étiquette ?
Alors ouais.
Ben alors ça, c'est assez compliqué. En France, il y a trois appellations d'origine contrôlée. Il y a Isigny, Charente-Poitou et Bresse.
Qui sont même devenues protégées à l'échelle européenne.
Protégées à l'échelle européenne. Et il faut savoir aussi que le beurre a été le premier produit à être défendu légalement, après les attaques de la margarine, peut-être qu'on en y reviendra. Mais c'est un produit qui est protégé depuis près de 100 ans. Ça... un avantage, cet avantage qui est certain, c'est celui d'avoir un produit industriel d'une qualité tout à fait honorable, très stable. On est quand même en France, les vaches sont souvent en extérieur, on a des produits d'une qualité, disons, raisonnable. Ça a aussi un inconvénient, c'est que ça a créé une standardisation terrible. Et par conséquent, la plupart de ces AOC sont des gages de qualité minimale, mais ne sont pas des gages de qualité patrimoniale, territoriale ou environnementale. Et ces AOC utilisent des beurres pasteurisés. Et on ne retrouve pas la même richesse aromatique que dans le beurre qu'on vient de goûter.
Je me suis livré il y a quelques temps à une dégustation à l'aveugle des trois beurres d'appellation d'origine protégée. Bien malin, celui qui réussira à reconnaître des différences et un vrai lien au terroir entre la Normandie.
Isigny, c'est le meilleur, je crois.
Évidemment, puisqu'on parle d'Isigny, il y a effectivement le beurre de Bresse et également le beurre de Charente-Poitou. Les trois à bénéficier d'une AOP. Et si on clarifiait la question du beurre clarifié ?
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai vendu la mèche. J'ai parlé de beurre clarifié.
Quel est le point commun entre les pommes Anna, les potted shrimp britanniques, le dal palak indien et les msemen du Maghreb?
Alors on fait un tour du monde. Hein.
Ouais. Ce sont des recettes préparées ou qui peuvent être préparées respectivement avec du beurre clarifié, du ghee et du semaine.
Ah
d'accord, mais c'est quoi le point commun? Vous venez de le dire, le point commun c'est le beurre clarifié, le ghee et le semaine c'est la même chose, enfin presque.
C'est une chronique en suédois, c'est la première.
Vous avez du mal à suivre là?
Non, pour l'instant c'est très clair.
Enfin, disons que le principe de départ est le même. Il est généralement préparé en faisant fondre du beurre, ses composants se séparant par gravité. Les particules solides qui flottent, qui remontent à la surface, la caséine, sont ôtées avant que celles qui coulent, le petit lait, soient séparées par filtration. On obtient ainsi... du beurre clarifié, dont l'avantage énorme est d'avoir un point de fumée plus élevé que le beurre classique. Il peut monter jusqu'à
252 degrés.
Non.
Et non,
un beurre clarifié peut monter aussi haut que ça.
Et donc c'est encore mieux pour frire que l'huile.
Oui,
avec du beurre clarifié, formidable. Sachant que l'opération Elvira, qui consiste à clarifier le beurre, n'est pas si compliquée à faire à la maison en fait. Dans une casserole, on fait fondre du beurre.
On fait fondre du beurre et on prélève avec une moire, voilà. Et après on le filtre, on le passe au chinois pour éliminer ce qui traîne au fond de la casserole. Ça sépare la... Et on le conditionne, on peut mettre dans un petit pot en verre que l'on garde au frais, qui peut se garder des semaines ou des mois. Je parle sous votre contrôle. Donc c'est 250 pour le beurre clarifié, et pour un beurre classique, c'est
130.
Ah d'accord.
Donc grosse différence.
Voilà.
Et là, le beurre bat l'huile de lait, je le rappelle, parce que l'huile de lait, c'est 220.
C'est ça. Donc le beurre clarifié n'a pas de concurrent en termes de résistance aux hautes températures.
C'est ainsi qu'on procède en Inde pour confectionner le fameux ghee, qui est utilisé pour faire chauffer les épices indiennes au fond du faitou. Alors, il pourrait être utilisé pour la friture, mais c'est quand même un produit qui revient un petit peu plus cher qu'une huile végétale, donc on n'utilise pas de ghee pour faire des kilos et des kilos de samosa, hein, par exemple. On en garnit généreusement les pains indiens, les naans, les chapatis. Les curries qui sont préparées avec du ghee ont une odeur très particulière, une saveur assez marquée. Le dal palak, qui est un magnifique plat de lentilles est souvent préparé du ghee également. Mm-hmm. Le semaine, dans les cuisines du Maghreb, c'est le même principe, avec une grosse fermentation en plus. Le semaine, c'est quand même, ça a une odeur très, très, très marquée.
Qui donne un côté aigre-lait, voire aigre-lait, un peu rance, justement. Mais on cherche le
rance. Oui, c'est un beau rance, quoi, mais c'est un peu rance quand même.
Dans le semaine.
Et je garde un souvenir assez ému, moi, de msemen, vous savez, les fameuses crêpes feuilletées, qui avaient été généreusement tartinées de beurre clarifié, de semaine et de miel. Et sinon, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cuisine british, non?
C'est vrai.
Ah, ça vous manquait.
Ça vous manquait, j'imagine. Ouais. Il y a un truc que j'adore, ce sont les potted shrimp de Morecambe Bay, une spécialité de crevettes cuites à l'eau de mer, conservées avec des épices sous une épaisse couche de beurre clarifié qu'on peut garder comme ça en conserve pendant des mois. C'est un régal, je vous jure.
Et alors, elles sont où?
Mais elles sont pratiquement introuvables. Il faut aller vraiment dans Lancashire, en Angleterre.
Je pensais que vous nous faisiez la surprise de nous les apporter. Non.
À propos de produits de la mer, il y a quelques jours, je suis allée voir une jeune femme formidable. Elle s'appelle Emmanuelle Marie. Elle est pêcheur chez vous, Dominique, dans le Cotentin, à Granville.
À Granville.
Dans le monde d'avant, ses araignées, ses homards bleus de Chauzet et ses bulots de la baie, mm-hmm. elle les fournissait aux restaurateurs. Alors, elle les vend toujours au marché de Levallois. Elle livre aussi des paniers à domicile. Et désormais, elle les fournit dans sa toute nouvelle boutique parisienne au pied de Montmartre, rue des Trois Frères. Elle prépare aussi, enfin plutôt son cuisinier, prépare des petits plats à manger pour l'instant à emporter. Et je me suis régalée avec un crabe roll. Vous savez, ces petits sandwichs de pain brioché garnis de crabe ou de homard, et dans le cas, ça s'appelle lobster roll, à l'image de ceux que l'on mange sur la côte est des États-Unis. En l'occurrence, c'était de l'araignée. Alors, je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu à Clément, le cuisinier, pour la décortiquer. Et pour préparer donc ce spider roll, araignée, qui était comme un petit coussin dodu, doré, parfumé, iodé, qui dégoulinait de mayonnaise et de beurre clarifié.
Et de beurre clarifié, tout ça dans un pain bien brioché, avec beaucoup de beurre.
Beaucoup de beurre.
Le beurre présent
de
à tous les étages de ce spider roll, dont on entend beaucoup parler sur la scène culinaire à Paris. Ouais. Là, c'est une folie.
Un délice.
Le spider roll, il paraît que c'est un truc orgiaque.
Enfin, en l'occurrence, décortiquer l'araignée, c'est pas une question de temps, c'est une question de motivation.
Il y a un truc qui fait aussi très très envie dans votre livre, Coutard et Colette. Je rappelle que vous êtes en couple, que vous cuisinez beaucoup au beurre. Au beurre, 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour, first edition. Et il y a beaucoup de desserts, évidemment. Le beurre est un allié, un complice indispensable à toutes les douceurs. Granola, doré, au beurre, il est là dans un bocal.
Il est là.
On le
sert?
Ah bah carrément.
Avec le yaourt qu'on a fait aussi.
Avec le yaourt maison.
Que vous avez fait.
Ouais.
Gala, racontez-nous.
Je raconte le granola.
Ah ouais, d'abord on commence par le granola qui va accompagner un superbe yaourt.
Le granola, c'est un mélange de céréales, donc souvent des flocons d'avoine, de graines, de courge, de sésame, de tournesol, de tout ce qu'on veut en fait, et d'oléagineux, donc des noix de cajou, noisettes et compagnie. Le tout est passé au four et traditionnellement ça se prépare avec de l'huile d'olive. C'est un petit déjeuner plutôt qu'un goûter d'ailleurs. C'est très sain.
Voilà,
et nous, on le prépare au beurre demi-sel même, à la place de l'huile d'olive. Et c'est le parfait compromis entre un petit déjeuner très sain et un croissant au beurre.
Quel regard. Et
merci.
Donc pour que le beurre ne crame pas, il faut le mettre à four assez moyen.
Alors je le fais à four 150 degrés et je le laisse une heure. Donc c'est plutôt lent.
D'accord, on a même le droit d'utiliser du beurre clarifié éventuellement.
On peut le faire, absolument.
Et là on peut cuire à 200, voilà, et en deux minutes c'est prêt.
Ouais. C'est plus rapide.
Qu'est-ce que vous mettez, ça sent très très bon dans l'appartement aussi, ça c'est un point non négligeable.
Oui, ça c'est un vrai bonheur, il y a des amandes effilées, j'aperçois des noix de cajou, des graines de courge.
Absolument. Tout ça, noix de cajou, graines de courge, amandes effilées, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Graines de sésame, ça je trouve c'est assez indispensable.
Et vous sucrez avec quoi?
Avec du miel.
Délicieux.
Et un petit peu de cassonade.
Régal, absolu.
Et le yaourt, c'est fait dans l'appartement aussi?
Ouais.
Vous savez qu'on la vache peut rester coincée dans l'ascenseur, vous avez conscience de...
C'est les joies du confinement, on est devenu hyper fort, on va créer notre propre nourriture.
Ouais. Je voulais qu'on rebondisse, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Sur la soupe au lait, je m'étais jamais posé la question de l'origine soupe au lait quand on a des humeurs, quand on est un peu versatile. Eh ben, je vous invite à retrouver la recette de soupe au lait dans ce livre, au beurre. 60 recettes modernes pour remettre au goût du jour le beurre. C'est aux éditions First et c'est une très bonne idée pour un livre de cuisine à mettre sous le sapin. Merci beaucoup Victor Coutard, Gala Colette,
merci
d'avoir été
vous
avec nous pour ce moment de partage. La semaine prochaine, c'est la fête de la cucina italiana justement, puisque on célèbre cette cuisine italienne avec des recettes, des films, de la littérature. Il y aura aussi plein de livres à gagner en direct. Alessandra Pirini, Laurent Delmas et bien d'autres invités. Pourquoi vous plaisantez?
Non, parce que je sais qu'il y a du camembert de Duflon et rien que l'idée m'amuse beaucoup.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.